Le train IC à destination de Chigny et des Comptes démarre dans quelques instants.
Bonjour, Pierre Labrèche.
Oui, bonjour.
Là, on s'entend de loin à loin. Nous sommes à Chigny. On s'est envolé vers le Québec virtuellement. Et puis, on vous retrouve loin de Montréal, en Abitibi, dans votre petit village. Alors, on vous appelle...
Oui, voilà.
Où ça? À La Motte, c'est ça?
Oui, le village s'appelle La Motte. C'est à 700 kilomètres au nord-ouest de Montréal.
Oui, ça fait loin, ça, en Abitibi.
Bon. Oui, Abitibi. La région d'Abitibi.
Pierre Labrèche, on vous appelle l'homme de lettres. Vous pouvez nous expliquer ça?
On m'appelle comment?
L'homme de lettres.
Ah, l'homme de lettres, ben oui. C'est parce que pendant 30 ans, j'ai exercé le métier de facteur. Pendant 30 ans, je me suis promené sur la rue et puis j'ai rencontré du monde. Et puis quand j'ai commencé à raconter, bien, j'ai commencé à compter les histoires, mes histoires de facteurs. Je me suis donc autoproclamé homme de lettres il y a de ça une bonne quinzaine d'années, presque 20 ans maintenant.
Vous rencontrez les gens, c'est bon, dans la rue, donc vous vous promenez dans la rue, vous distribuez vos lettres, vous croisez les gens, vous les regardez, et vous vous racontez des histoires tout en allant?
Oui, bien sûr. Moi, j'étais en fait, ça fait quelques années que je ne suis plus, mais j'étais facteur à pied. Donc, dans les villes, les petites villes, surtout dans une petite ville, j'étais facteur à pied. Donc, forcément, j'étais à la rencontre des gens. Et puis, vu que j'aime ça placoter, j'aime ça jaser avec le monde, ben, souvent les gens me racontaient des bouts de leur vie. Et puis après ça, ben, moi, je prenais plaisir à prendre ces bouts de vie-là et puis à les mettre en histoire. Un peu comme je le fais pour les autres histoires que je raconte, les histoires qui parlent de mon pays d'Abitibi, les histoires qui parlent de mon village. C'est toujours la même chose. J'aime ça aller à la rencontre du monde. Fait que quand je rencontre des gens, ben, je suis intéressé à connaître leurs histoires.
C'est une belle idée. Ça nous permet, nous, d'avoir une petite vision de votre monde. Et si je comprends bien, tout en allant, vous racontez, vous écoutez les histoires des gens et puis vous en faites une histoire beaucoup plus générale à partir de votre imaginaire.
Oui, c'est en plein ça. C'est comme ça que je fonctionne. Des fois, je vais prendre deux ou trois personnes que j'ai rencontrées et puis je vais amalgamer tout ça dans une seule histoire. Nous autres, la région chez nous, la région d'Abitibi, les Blancs, on est arrivés en Abitibi il y a à peu près 100 ans. Donc, toute l'histoire de la colonisation de ce territoire-là, il y a des gens qui l'ont vécu au fil du temps, il y a des gens qui l'ont raconté. Il y a des gens qui ont parlé de leur arrivée. C'est encore tout récent. Il y a encore des témoins vivants d'une certaine époque. Donc, c'est tout le temps enrichissant de parler avec le monde, oui.
Oui, c'est une façon, finalement, d'écrire l'histoire, mais pas l'histoire, la grande histoire avec les grands personnages dont on étale le nom dans les journaux, mais au moins d'avoir l'histoire des gens qui font la grande histoire, des petits gens qui font la grande histoire.
Oui, c'est ça. Puis ce sont des histoires du quotidien, c'est la vie quotidienne du monde, c'est leur regard sur notre société, notre petite société qui devient universelle en quelque sorte. Parce que on a beau vivre en Abitibi au nord du Québec, les choses qu'on rencontre, les gens qu'on voit, ben on vit à peu près tous la même chose. Hein. L'humanité, elle n'est pas différente, je pense, d'un endroit à l'autre. Les contextes, la géographie sont différents, mais les êtres humains sont foncièrement les mêmes. Donc, moi, oui, j'aime beaucoup rendre compte de cette quotidienneté-là, des gestes que les gens ont posés, des gestes de courage, la bravoure. Si je reviens à l'exemple de chez nous, l'Abitibi, quand les grands-parents sont partis, qui ont laissé leur coin de pays où ils étaient déjà bien installés, bien établis pour venir fonder un pays neuf, Ben, ça en prenait du courage, ça en prenait de l'esprit d'aventure, ça en prenait de l'esprit de vouloir faire. Puis c'est toutes ces expériences de vie-là qui ont forgé le pays où je vis. C'est toutes ces expériences de vie-là que j'essaie de redonner sur une espèce de devoir de mémoire.
De mettre en valeur, un devoir de mémoire, ben c'est le mot. Vous pourriez nous raconter une de ces petites histoires?
Ben avec grand plaisir. Je vais d'ailleurs vous parler de quelqu'un qui a bâti le village où j'allais. Il s'appelle Cyrénus la Liberté. À la fin de sa vie, Cyrénus la Liberté vivait avec sa femme Blanche dans un tout petit appartement dans la petite ville qui est située à une trentaine de kilomètres du village, de notre village où il avait toujours vécu. Plusieurs fois par jour, il s'approchait du lavabo, il ouvrait le robinet, il laissait couler. En disant à sa femme Blanche, écoute, on entend l'eau qui coule. Écoute comme c'est beau. Au village, chez nous, rien qu'à prononcer son nom, vous allez voir apparaître des sourires. Parce que de toute façon, en partant juste son prénom, c'est déjà comme une chanson. Cyrénus. Cyrénus, c'est le père de mon ami Lionel. Il est décédé depuis un bon bout de temps. C'était un bon vivant. C'était un joueur de tour. Un joueur de violon aussi. Il y avait souvent des veillées de musique chez eux. Puis ça se disait au village. Il y a une veillée de musique chez Blanche puis Cyrénus. Quand c'était son ami, comme à peu près tout le monde l'était, tu pouvais t'attendre à le voir arriver à n'importe quelle heure du jour. Il avait beau être 6 heures du matin. S'il voyait de la lumière dans la cuisine, il cognait à la porte, puis il s'assoyait à la table de la cuisine. Et puis là, il disait, moi, tu comptais un chèque. Puis là, ben, ça partait, ça décollait, avec ses mimiques, avec ses grimaces. Avec sa manière de raconter, la moindre anecdote devenait une histoire, jusqu'au grand rire aux éclats. Cyrénus, il était prêt à tout pour épater les galeries, surtout quand il y avait des femmes. Comme la fois où sa femme avait invité de ses amis, il y avait un paquet de femmes autour de la table, il est descendu dans la case qui était en fer battu. Il a trouvé une couleuvre, puis il l'a mis dans sa chemise. Il est remonté tranquillement à s'asseoir autour de la table avec les femmes, rien que pour voir la face des femmes quand la couleuvre s'est passée la tête entre deux boutons. C'est un bon vivant, mais il avait aussi un don. Il avait le don de la bienveillance. Il voyait ce qui se passait dans la paroisse. Lui, il restait loin, dans le rang 4. Il n'a jamais eu d'auto, il n'a jamais conduit. Il s'en venait au village avec son cheval puis sa charrette, ou le plus souvent à pied. Et puis là, en marchant vers le village, il regardait. Il remarquait. Ah, oh, cette maison-là a besoin de peinture. Ah, oh, la tôle de cette grange-là, elle n'a plus pour de bien longtemps. Il regardait les jardins. Il faisait le tour des bâtiments pour voir si c'était bien entretenu. Il regardait le linge, sa corde à linge. Puis arrivé au village, ben, il regardait les enfants jouer dans le cours d'école. Puis il voyait. Il pouvait le dire ceux qui mangeaient à leur faim, puis ceux que non. Nous autres, à la Motte, on a toujours eu une belle paroisse prospère, avec des belles fermes, de la belle agriculture. On a même déjà eu une beurrerie dans notre tout petit village. Puis en plus, il y a bien des hommes qui travaillent au bois ou qui travaillent dans les mines des environs. Bien, il y a tout le temps eu, pareil, des familles plus pauvres. Puis il est arrivé des époques où il y en a qui ne mangeaient pas à leur faim. Il y a des années où les jardins ne donnaient pas assez. Il y a eu des malheurs, des vaches tuées par la foudre. Plus de poules mangées par les coyotes que d'habitude. D'un temps dur, quand Cyrénus s'apercevait que le monde commençait à avoir faim, il décidait qu'il fallait faire quelque chose. Ça dépendait des saisons. C'est pas tout le monde qui était chasseur, lui, c'en était un bon. Mais il n'y a jamais personne qui aurait dit que Cyrénus braconnait. Nous autres, au village, on vit dans la ligne de migration des outardes, les oies sauvages. À l'automne puis au printemps, c'est des milliers puis des milliers d'outardes qui se posent dans les champs pour manger le grain qui est resté après récolte. Puis le soir, ces outardes-là s'en vont se poser sur le grand lac pour la nuit. Ben, quand le monde avait faim, Cyrénus prenait son fusil, puis bang, bang, bang. Vous savez, ça dépend des goûts. Mais les outardes, il y en a qui disent que c'est pas ce qu'il y a de meilleur à manger. C'est une viande qui goûte fort, c'est sec. Mais quand t'as faim, puis que Cyrénus t'amène une outarde toute plumée, toute arrangée, ben l'outarde, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Puis en d'autres saisons, après que le lac ait dégelé, Cyrénus partait avant le lever du soleil, avec son cheval puis son bogey. Il partait de chez eux, il dépassait le village, il s'en allait jusqu'au bord du lac, le long du creek à Bellefeuille. Et là, il sortait son filet. Un filet de pêche commercial. Ça, c'était pas permis, mais il n'y aurait jamais personne qui aurait dit que Cyrénus braconnait. Après une couple d'heures, quand le filet était bien rempli de doré et de beaux brochets, Sirénus se remettait tout ça dans sa charrette puis repartait tranquillement vers le village en chantant. L'ignore quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore quand le vent soufflera sur la verte bruyère. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. Ben, le long du chemin, les femmes l'entendaient venir en chantant, puis ils sortaient sur les perrons. Sirénus, Sirénus! Puis lui, ben, il prenait 4, 5, 6, 7 poissons, dépendant du nombre de personnes dans la maison. Et puis il lançait ça dans les airs vers la femme. Les enfants sortaient pour attraper puis ramasser les poissons volants à Sirénus. Et puis lui, ben, il repartait en chantant. Comme ça, jusque chez eux. Il donnait du poisson au monde. Puis quand il arrivait à la maison, les petits gars arrangeaient le restant. Puis quand Blanche disait qu'il y en avait assez pour la famille, assez pour les conserves, ben là, ils repartaient vers le village, porter des beaux filets aux vieux du village, ceux qui ne pouvaient plus y aller à la pêche. Puis là, ils arrivaient à la maison, ils s'accotaient dans le corps de la porte, puis « M'en va te compter un fait. » Il y a une année, il s'est lui, Sirénus, la liberté, qui a perdu une vache, tuée par la foudre, tuée par le tonnerre, comme il disait. Cette année-là, ben, le premier veau qui est né dans notre village, ça a été sa ferme à M. Béliveau. Ben, moi, je vous laisse deviner qui est-ce qui a hérité du veau. Au village chez nous, rien qu'à prononcer son nom, vous allez voir apparaître des sourires. Ah oui, puis vous auriez dû le voir quand il s'en allait venu. Il se mettait beau, son 36, il mettait sa belle habille, sa cravate. Une fois arrivé là-bas à veiller, il sortait son violon de sa boîte à violon. Puis quand on l'invitait à jouer, ben, il s'accotait le violon droit sur l'épaule.
Merci pour cette jolie histoire, Pierre, et on vous salue depuis S'écouter sa compte, en espérant vous retrouver tout bientôt sur la route du compte.
Ben, je l'espère bien, et puis je vous souhaite une très belle fin de semaine de compte à la radio. Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. À la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir. Thank you.
Vous nous entendez? Eh bien, écoutez maintenant.